Bonsoir. Un quatrième cas de coronavirus a été enregistré hier lundi dans la ville de Kinshasa. Le patient était un Congolais de 34 ans, de retour des États-Unis via la France. Pendant ce temps, les frontières de la RDC restent encore ouvertes. Toutefois, un conseil extraordinaire des ministres se tient ce mardi à Kinshasa pour éventuellement renforcer les mesures face à cette pandémie. Les mesures actuelles prises par le gouvernement sont-elles efficaces? Doit-on les maintenir ou les renforcer? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Dr. Aaron Haruna Adebi. Il est directeur national de la Direction nationale des surveillances épidémiologiques. Dr. Aaron Haruna, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Maître Jean-Claude Katende, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Docteur Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il est expert en pneumologie. Docteur Jean-Marie Kayembe, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrice Tanga. Il faut juste renforcer les mesures et sensibiliser davantage les Congolais à travers les médias des masses. David Kibbe à Kampala, en Ouganda. Je pense que le gouvernement doit faire comme les autres sont en train de faire en commençant par la fermeture de toutes les entrées du pays avant que la situation ne s'empire chez nous. Merci de nous suivre à Kisangani dans la province de la Tchopo sous la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radio-okapi.net.
Du point de vue de la contamination, le coronavirus est plus dangereux qu'Ebola et la RDC ne dispose jusqu'à présent d'aucun plan de prise en charge des cas de coronavirus. C'est ce qu'a affirmé ce mardi devant la représentation nationale le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. Au cours d'une séance académique à l'Assemblée nationale, le virologue congolais fait état des 4 cas et plus de 300 contact suivi. Pour lui, la menace doit être prise au sérieux, sans paniquer. Il propose donc que des mesures soient prises sans attendre, car la RDC ne dispose pas des moyens comme la Chine pour faire face à cette pandémie. On écoute Dr Jean-Jacques Muyembe au micro de Michel Kifinda.
Alors, le vaccin Ebola ne peut pas agir sur le Covid, parce que ce sont deux virus différents. Donc, le problème, c'est que jusqu'à présent, je ne sais pas comment on traite ces malades. C'est comme si vraiment nous n'étions pas préparés pour recevoir tous ces cas. Le plus important, c'est de savoir pourquoi les 4 malades sont passés par la frontière, n'ont pas été détectés. Donc, les voyageurs peuvent, quelques temps avant d'entrer dans l'avion, prendre des paracétamol et puis la fièvre disparaît. On nous a parlé aussi qu'à l'aéroport, si vous donnez 1000 francs, on peut vous laisser passer. Bon, si ça c'est dans notre culture, vous voyez, il faut changer. Cette menace, ce n'est pas une menace individuelle, mais c'est une menace collective. Donc, nous devons tous contribuer à arrêter cette maladie. Que la maladie n'entre pas chez nous, parce que nous n'aurons pas la possibilité de tout contrôler. Mais attention, la Chine, c'est un grand pays. Hein. Comment ils se sont réveillés et les moyens qu'ils ont mis en place, ce sont les robots qui viennent donner à manger aux malades, etc. Ça, nous n'avons pas. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas nous comparer à la Chine.
La RDC enregistre à ce jour 4 cas de coronavirus confirmés. Les 4 patients sont tous rentrés en RDC par avion. Ils revenaient directement ou avaient fait escale dans l'un des pays touchés par le coronavirus. Comment sont-ils passés à travers les mailles du dispositif de contrôle sanitaire sans qu'ils ne soient détectés? Le directeur du programme national d'hygiène aux frontières, le docteur Dungi Dungi, confirme le 4e cas et fournit des explications. Voilà. Il appelle par ailleurs la population à considérer les communications officielles et à ne pas se fier aux rumeurs distillées par dans les médias sociaux. Le docteur Dungi Dungi, dans cet extrait que nous propose Jean-Pierre Elali.
Alors, la question par rapport à la fiabilité. Nous sommes là pour détecter des voyageurs malades. Mais les quatre, quand ils sont passés, ils n'étaient pas malades, ils n'ont présenté aucun signe. D'ailleurs, pour preuve, le tout dernier cas, le quatrième cas, je crois qu'il y a 3-4 jours qu'il a commencé avec les symptômes et il l'a déclaré. Donc, ça signifie que nous ne travaillons pas aussi seuls au niveau des frontières. Il y a la continuité du service au niveau national. Toutes ces structures qui ont reporté les alertes, toutes ces communautés, parce qu'il y a aussi les membres de la communauté qui nous ont appelés pour nous reporter ces alertes, ils font tous partie du système de santé de la République démocratique du Congo. Avec la mondialisation, les réseaux sociaux, les rumeurs ne manquent pas. Mais moi, je demanderai à la population de suivre les communications officielles. Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, communique quotidiennement par rapport à la situation du pays. Et je crois que c'est la vraie source de l'information. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, déjà qui racontent des choses, ne suivons pas ça parce que ça risque de nous désorienter.
Docteur Aaron Haruna, je rappelle que vous êtes directeur national de la Direction nationale de surveillance épidémiologique. À ce jour, 4 cas confirmés de coronavirus en RDC. La RDC ne dispose jusqu'à présent d'aucun plan de prise en charge des cas de coronavirus. Pourtant, ça fait quand même plus d'un mois qu'on parle de cette maladie, cette épidémie ou pandémie à travers le monde. Comment expliquer que jusqu'à présent, il n'y a aucun plan de prise en charge des cas de coronavirus?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je voulais d'abord, avant d'aborder le sujet, dire qu'on a commencé à se préparer depuis le mois de janvier. Comme l'épidémie chez nous évolue en phase, il y avait la phase de préparation et nous avons un plan de préparation avec 3 scénarios. Le premier scénario, c'était la phase de préparation avec 0 cas, donc il fallait mettre en place les mesures pour éviter l'entrée du virus dans notre pays. Il y a le deuxième scénario, c'est ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en deuxième phase et il y a un plan, il y a une partie du plan du deuxième scénario qui a comme hypothèse de 1 à 50 cas. Et puis troisième phase, c'est lorsque nous serons un peu débordés. Donc ça existe, il y a un plan de préparation et de riposte qui existe. D'ailleurs, c'est à partir de ce plan-là que le gouvernement a financé, donc il a financé la première partie.
Il y a un plan de préparation, mais pas de prise en charge jusque-là.
Donc, dans le plan, d'une façon générale, il y a plusieurs stratégies à l'intérieur. Il y a la surveillance, il y a la prise en charge, il y a la communication, il y a la prise en charge, la communication des risques, il y a tout. Nous avons un plan. C'est tout à fait normal que ce plan vis-à-vis de l'évolution de l'épidémie nécessite de temps à autre de réadapter ce plan. Donc nous avons un plan de préparation et peut-être ce qu'il faut contenir de l'évolution aujourd'hui de l'épidémie, de laisser un peu de l'adapter. L'autre élément que je voulais dire, nous sommes au début. Donc il y a 4 cas confirmés comme vous venez de dire. Tous ce sont des cas importés. Je ne voulais pas revenir sur ce que le docteur Dédé a dit. La plupart de ces malades-là, on peut dire tous, sont passés. Il n'y a personne qui développait les signes. Le troisième, par exemple, il est passé, il avait un peu de maux de tête. Le quatrième, il est passé, là, il était bien portant, il a commencé à manifester les signes 3 jours après. Alors, si on dit que nos agents qui sont là, ils perçoivent l'argent, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense. Il faut encourager les gens qui travaillent nuit et jour, donc ils sont tentés de se sacrifier pour la population. Je ne pense pas que les gens qui sont affectés auprès d'entrée, ils prennent l'argent des passagers. D'autant plus qu'il y a des dispositifs, déjà, en descendant de l'avion, il y a l'équipe qui est là, il y a des fiches. Et puis, il y a les thermoflashs, il y a les caméras thermiques. Donc, il y a plusieurs étapes. Et je ne sais pas à quelle étape on donne l'argent avant que les gens puissent sortir sans être contrôlés.
Mais voilà, on rapporte aussi que certains voyageurs ne sont pas examinés.
Bon, d'une manière générale, je ne peux pas affirmer cela, mais d'une façon générale, aujourd'hui, comme on le dit, en descendant de l'avion, il y a déjà une équipe qui fait le screening. Et on remet l'affiche à tous les passagers. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces données des passagers qui nous permet aujourd'hui de mettre en place un système de suivi des voyageurs et un suivi des contacts.
Alors, 4 cas confirmés et plus de 300 contacts suivis. Le suivi se fait comment concrètement?
Bon, les suivis, nous avons constitué nos travaux d'abord avec la province et les zones de santé. Et nous avons partagé la zone à plusieurs axes. Nous avons constitué des équipes. Nous travaillons avec les relais communautaires. Et il y a deux types de suivi. Il y a des gens qui sont à la maison. Nous communiquons par téléphone. Et par semaine, les équipes, donc le superviseur, passe deux à trois fois, vérifier si les informations reçues par téléphone sont véridiques, c'est-à-dire si quelqu'un ne développe pas la maladie.
Et tous les 300 cas sont suivis?
Il n'y a pas tous les 300 cas. Aujourd'hui, on a présenté les taux de suivi autour de 80%, parce qu'il y a des cas, pas des cas. Il y a des cas qui nous échappent parce qu'on n'a pas encore toutes les adresses. Par exemple, le cas des derniers cas qui sont arrivés. C'est hier que nous avons reçu les manifestes. Donc, nous devons travailler pour récupérer les cas que nous n'avons pas encore eu toutes les adresses. On n'a pas encore eu les coordonnées pour essayer d'organiser au maximum le suivi de ces contacts.
Alors, est-ce qu'il faut craindre une catastrophe au cas où c'est parmi ces personnes qui sont arrivées, il y a des cas confirmés de coronavirus et ces cas seraient entrés en contact avec d'autres personnes? Est-ce qu'il faut craindre une catastrophe pour Kinshasa?
Je pense qu'il y a, à ce moment-ci, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens ont peur. Mais ce qu'il faut signaler, les quatre cas, jusque-là, on n'a pas encore enregistré un cas de contamination locale. Je pense qu'on prend toutes les précautions pour éviter à ce qu'il y ait une situation catastrophe. Nous sommes en train de travailler chaque jour et je pense qu'il faut être optimiste dans ce sens-là.
Docteur Aaron Haruna, des mesures avaient été prises par le gouvernement, entre autres checker la température à l'aéroport lorsque les voyageurs arrivent des pays touchés par le coronavirus. Il y a une fiche aussi à remplir. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont efficaces aujourd'hui?
Madame, c'est ce que je disais, que les mesures, on les adapte par rapport à l'évolution de l'épidémie. Nous étions à la première phase. Donc, vous vous souvenez que nous avons commencé à mettre les dispositifs il y a plus de deux mois. Même les bulletins que nous publions, les bulletins épidémiologiques, nous sommes à la 48e bulletin épidémiologique qui décrit la situation épidémiologique.
Alors, aujourd'hui, on a quatre cas confirmés. C'est là où vous allez réadapter, on va renforcer les mesures?
Oui, c'est tout à fait normal. Les mesures de santé publique sont adaptées au fur et à mesure que la situation épidémiologique évolue dans les pays. Partout au monde, que ce soit en France, partout, donc on essaie d'adapter les mesures par rapport à l'évolution des pandémies et on tient compte de plusieurs facteurs et leur importance, aussi des connaissances scientifiques. Et parmi ces facteurs, on tient compte, par exemple, de la vitesse de la transmission, de la localisation de l'expansion géographique, de la gravité de la maladie. Et à chaque phase, on essaie d'adapter la situation. Hier, les matchs sont organisés correctement, mais à partir d'aujourd'hui, vous avez constaté, les matchs ne seront pas organisés. Donc, tout sera adapté au fur et à mesure que la maladie évolue dans le mauvais sens.
Alors, cette émission sert aussi à sensibiliser les Congolais qui nous suivent à travers toute la RDC. Docteur, cette maladie se contamine comment? Par quel moyen? Est-ce au moyen de l'air que nous respirons? Est-ce que par contact physique? Brièvement, est-ce que vous pouvez rappeler comment cette maladie se contamine?
Je pense que le professeur Kaïn devra revenir sur la contamination parce qu'il est pneumologue, mais ce qui est reconnu, la contamination c'est par voie aérienne. Si vous êtes à côté de quelqu'un proche et qui a des gouttelettes qui proviennent soit de voie aérienne, soit de voie aérienne, et on peut facilement contaminer quelqu'un.
Merci.
Et donc c'est généralement par voie aérienne. Mais il faut faire attention. Si quelqu'un tente de se moucher, les sécrétions qui contient le virus lorsque vous touchez par la main, et vous pouvez aussi vous contaminer facilement. Donc voilà la voie principale de contamination, c'est par voie aérienne, mais on peut s'essuyer à partir de la main.
Merci docteur Aaron Haruna. Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des défenses de droits de l'homme, ASADO, en sigle. Quelle lecture, maître Jean-Claude Katende, de la situation, de l'allure à laquelle évolue cette maladie en RDC?
Merci, madame, pour la question. Je voudrais dire à vos nombreux auditeurs et auditrices que cette maladie, elle est vraie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu certains Congolais disent que c'est une maladie qui n'atteint pas les Noirs. Et donc, ils ne sont pas concernés. Ce qui est un véritable danger, la maladie existe et elle tue effectivement les gens. Maintenant, quant à ce qui concerne la République démocratique du Congo, je constate que les cas évoluent au fur et à mesure. Et le docteur Aruna disait tout à l'heure qu'il y a plus de 300 contacts. J'aurais bien voulu qu'il puisse nous dire les nombres exacts de contacts qui sont suivis. Parce que quand on dit plus de 300, ça peut être 600, ça peut être 1000, ça peut être 2000, ce qui veut dire en d'autres termes que cela ne fait que renforcer nos inquiétudes par rapport à la manière dont le gouvernement de la République démocratique du Congo s'y prend pour faire face à cette maladie. Le docteur disait tout à l'heure qu'il y avait la première phase pour 0 cas, deuxième phase pour 50 et puis troisième phase pour 100. Je pense que le plan dont il a parlé ne tient pas compte, en fait, du comportement des Congolais, des habitudes des Congolais. Le docteur Muyembe a souligné le fait qu'à l'aéroport, nous ne devons pas l'oublier, nous tous nous voyageons, il y a des personnes qu'on prend au pied de l'avion directement dans une voiture et la personne est partie et les formalités habituelles sont faites par d'autres personnes pour elle. Donc il y a beaucoup de situations comme ça que nous connaissons. Et c'est pour ça que j'estime personnellement que pour un pays où il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la prise en charge médicale, l'État aurait dû prendre des mesures très fortes dès le départ. Ne pas attendre qu'on passe à la deuxième ou à la troisième phase, parce qu'aujourd'hui, je me demande si le Congo a vraiment des structures qui puissent permettre à ce que 1000 ou 2000 personnes soient réanimées.
Docteur Muyembe l'a dit, on n'a pas des structures en RDC pour prendre ça.
Effectivement, c'est pour ça qu'il est important qu'on prenne des mesures extrêmes. Les docteurs disaient que les mesures vont évoluer au fur et à mesure. Nous avons plus de cas que la Côte d'Ivoire qui vient de prendre des mesures plus avancées que ce que nous on a fait. On a plus de cas que le Gabon, mais le Gabon vient de prendre des mesures plus avancées. Moi, j'estime personnellement que les mesures qui sont prises aujourd'hui en République démocratique du Congo sont des mesures fantaisistes qui ne pourraient pas permettre à ce qu'on fasse face à cette maladie continue de notre environnement. Nous, notre souhait, c'est que aujourd'hui, que l'État prenne des mesures, des fermetures des écoles, des fermetures des églises et tout autre endroit où les gens se côtoient, où il y a la proximité comme on le voit par exemple à Kapela, à Kalamulaba. Vous avez des milliers de gens qui sont assis les uns contre les autres. Tout ça, ça expose les gens. C'est pour ça que nous pensons que les mesures qui sont prises jusqu'à présent sont insuffisantes et l'intervention du docteur Aruna ne fait qu'accentuer nos inquiétudes.
Alors, est-ce que vous pensez comme certains Congolais qui estiment que le gouvernement ne prend pas très au sérieux cette affaire de coronavirus?
Effectivement, si le gouvernement prenait cette affaire au sérieux, nous l'aurions vu par des mesures à prendre. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des écoles, madame, où il n'y a aucun dispositif pour permettre aux enfants, par exemple, de se laver régulièrement les mains. Ça, c'est l'État qui doit l'imposer. Vous voyez, en ville là-bas, il n'y a aucune fontaine où les gens peuvent se laver les mains. Ça, l'État peut le faire. Si on dit que le peuple d'abord, on doit le voir dans les actes. Pour moi, je pense que le gouvernement n'a pas encore pris la mesure de la gravité de la situation et le peuple congolais va être très exposé et chacun doit pouvoir prendre ses propres mesures parce que le gouvernement ne sera pas à mesure de le faire et c'est ça la réalité.
Il n'y a pas de sensibilisation de la part du gouvernement sur le coronavirus. Ouais,
nous aurions souhaité par rapport à cette question, madame, que le programme de la RTNC soit modifié. Parce que la RTNC, c'est la télévision nationale. Ces programmes doivent être adaptés à la situation actuelle. Parce que nous sommes en guerre face à un ennemi qu'on ne connaît pas. Et beaucoup de Congolais n'ont pas encore la conviction que le Covid-19 existe. Et les autres télévisions privées, l'État doit leur imposer un programme qui permet à ce que tout le monde soit sensibilisé. Si vous faites le tour des églises le dimanche, vous allez voir que les pasteurs ne sont même pas formés, ne parlent pas à leurs fidèles de cette maladie. Ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mesures sérieuses qui soient prises par le gouvernement pour sensibiliser les gens, pour faire face à la situation. Et malheureusement, si les cas augmentent, beaucoup de Congolais vont être exposés, ils vont mourir. Que nous n'avons pas des structures hospitalières capables de faire face à cela.
Merci.
Et c'est ça la vérité qu'on doit dire aux Congolais pour que chacun se prépare à se protéger lui-même en suivant les conseils comme on vient de le suivre.
Merci, maître Jean-Claude Kietende. Docteur Jean-Marie Kayembe, doyen à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Vous êtes expert en pneumologie. Docteur Jean-Marie Kayembe, quatrième cas confirmé de coronavirus en RDC. Les mesures actuelles prises par le gouvernement sont-elles efficaces?
Madame, je vous remercie de m'associer à cette réflexion globale qui ressort des réflexions des enfants qui aiment réellement leur pays. Je voudrais vous prendre au mot. Vous nous apprenez que le gouvernement de la République est aujourd'hui en réunion extraordinaire face à la situation du coronavirus. Ça voudrait dire que ne sachant pas encore ce qui va sortir ce soir de ces réunions, je ne voudrais pas m'instituer en accusateur, encore moins en défenseur d'une situation dont nous ne connaissons pas encore les aboutissements. Je voudrais simplement relever que si le président de la République décide d'organiser une réunion extraordinaire du gouvernement, c'est que tout au moins la chose est prise totalement au sérieux. Je voudrais maintenant revenir un tant soit peu sur la situation scientifiques des spécialistes de santé publique quant à la gestion des épidémies. Madame, en disant tout au moins que notre pays a l'avantage, et c'est un avantage, mais je vais quand même le dire, d'être aujourd'hui en train de gérer la 10e épidémie de Ebola. Les 9 premières, aucune n'a duré plus de 3, tout au plus 4 mois, parce que la gestion se faisait par les fils du pays, sans oublier, bien sûr, l'apport des partenaires internationaux qui nous ont accompagnés en termes d'argent, en termes de logistique, etc. L'OMS en premier. Aujourd'hui, nous avons cette expertise d'Ebola où le chef de l'État s'impose, décide de prendre la chose à un niveau multisectoriel, madame. Le problème de la gestion aujourd'hui du coronavirus n'est pas une histoire du seul ministère de la Santé. Nous devons tous nous sentir impliqués dans la gestion de cette crise qui risque d'être dramatique si elle nous frappait. Je m'en vais pour peu vous dire, le ministre de l'Enseignement supérieur, aujourd'hui même, a organisé une rencontre autour de l'expertise universitaire pour lui proposer des mesures à divulguer globalement au niveau de l'enseignement supérieur. La même chose devrait être faite par le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, par les églises, etc. J'apprends, parce que je sais que le ministère de la Santé organise chaque jour, à partir de 14h, une réunion d'experts. Probablement qu'il y a, pas probablement, sûrement, qu'il y a des petits engrenages un petit peu difficiles dans le fonctionnement optimal d'une situation qui devient grave. Mais n'oublions quand même pas que jusqu'aujourd'hui, on ne va pas attendre le millième cas avant de se réveiller, madame. Mais des pays comme l'Italie, comme la France, qui ont quand même des systèmes sanitaires organisés, des pays comme la Chine, qui a pu montrer à la face du monde qu'elle a pu prendre justement mobiliser tous les fils du pays pour réfléchir à comment ne pas étendre l'épidémie de manière rapide. On réagit en mettant les moyens, en mettant les scientifiques à l'épreuve. Qu'est-ce que nous avons fait, nous? C'est peut-être ça qui sera plus utile et contributif. Madame, la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, ainsi que son école de santé publique, avec une expertise éprouvée en matière d'épidémiologie, la faculté de médecine avec son laboratoire, l'INRB et nous sommes ensemble dans ce domaine et nous devons profiter des outils modernes d'eux. Mais ce que nous devons, et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui parce que j'étais à cette réunion de l'enseignement supérieur, nous avons eu une présentation extraordinaire. Ça ne va pas se limiter à la présentation, mais c'est la communication pédagogique au niveau du risque. La communication a une importance capitale, on le sait, depuis la gestion des graves épidémies comme Ebola, etc. On a eu un cas d'Ebola à Goma.
Mais c'est pas le cas chez nous, la communication. On communique moins sur pandémie.
Mais qu'êtes-vous en train de faire maintenant, madame?
Moi...
Vous êtes en train justement d'aider cette population à nous montrer qu'il y a un déficit communicationnel, qui laisse un peu plus de travail aux fake news, comme vous le savez si bien, etc. Et peu de paroles, peu de temps est accordé aux connaisseurs, aux spécialistes. Ce jour même, le professeur Muyembe est allé parler aux députés. Pouvez-vous imaginer que même à ce niveau, c'est au niveau de l'État qu'il y ait des représentants du peuple en train de décrédibiliser, au fait, le moment, décourager complètement le moment où l'on a besoin d'une conscience nationale et globale. Madame, je ne peux pas me prononcer sur les mesures que demain ou ce soir, vous et moi, nous apprendrons de la part du gouvernement. Mais je pense que le gouvernement s'est reposé sur ses experts, l'équipe du professeur Muyembe, le secrétariat technique. Nous ne pouvons pas encore, et touchons du bois, dire Ebola est terminé, mais servons-nous de l'expertise dans la gestion d'un virus beaucoup plus létal. Mais celui-ci, c'est vrai, le corona...
Il est plus dangereux que Ebola.
Plus dangereux, lorsque je regarde le taux de létalité, madame, je n'oserais pas m'avancer jusque-là, malgré, je dois rester humble et simple, ma qualité de scientifique. Aujourd'hui, la létalité liée à ce virus, elle tourne autour de 2%. Mais dans une population, lorsque vous avez 1% de malades atteints qui meurent, madame, le système de santé doit se questionner, doit s'interroger. Je ne sais pas si au sortir du conseil des ministres d'aujourd'hui, nous n'apprendrons pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu, que le gouvernement pourrait décider éventuellement de stopper, comme d'autres l'ont fait, on a dit courageux, etc. Je ne pense pas que notre gouvernement ne soit que famélique, etc.
Merci, docteur. On va vous redonner la parole, docteur Jean-Marie Kayembe. Docteur Aaron Aruna, on va prendre pour vous. Les auditeurs sont très nombreux, hein. Envoyez des questions à appeler. On va prendre pour nous, docteur Aruna, cette réaction qui nous vient de Boutembo.
Maître Trésor Mumberetsu, c'est depuis Boutembo. Il est ahurissant que le gouvernement congolais continue à traîner le pas pour prendre des mesures fermes afin de stopper net la propagation du COVID-19, alors que le système de santé dans la capitale et dans l'intérieur du pays reste parmi les moins efficaces du continent. Pour lutter efficacement contre cette maladie, le gouvernement doit suspendre le vol en provenance des pays gravement affectés et renforcer les contrôles au niveau des aéroports et postes frontaliers avec du matériel adéquat. Pourquoi ne voulons-nous pas tirer des leçons de la maladie à virus Ebola qui vient de tuer plus de 2000 personnes à l'est du pays pour ainsi continuer à tergiverser face à une maladie si grave?
Docteur Aruna.
Je vous écoute, madame.
Alors, vous avez suivi cet auditeur de Boutembo qui dit qu'il faut que le gouvernement puisse renforcer ses mesures et suspendre tous les vols qui en provenance des pays gravement affectés. Renforcer le contrôle au niveau des aéroports et postes frontaliers avec du matériel adéquat.
Merci, madame. Ce que notre auditeur dit, voilà. Il y a des décisions qui doivent être prises au niveau du gouvernement. Le professeur vient de le dire, que ce n'est pas notre niveau. Nous, techniciens, qui devons prendre les décisions, par exemple, de suspendre les vols. Ça, ça relève du gouvernement.
Mais vous, techniciens, vous pouvez aider le gouvernement dans ce sens.
C'est ce qu'on vous dit, comme le professeur vous a dit qu'il y a une réunion. Et tant que techniciens, nous avons proposé quelque chose. Et par rapport aux mêmes aux personnes qu'on dit, les personnes qui on vient les chercher au pied de l'avion, je pense qu'il y a une semaine, le ministre de la Santé a réagi, il a donné l'ordre et il a informé même au président de la République. Je pense que depuis une semaine, depuis qu'on a résolu le cas, cet état de choses, on a arrêté. Donc par rapport au renforcement des points de contrôle, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons en collaboration avec la province. À Beni ou de Butembo, il y avait des cas suspects. Les passagers qui sont venus de l'Italie, ils sont entrés par Cassini. Je pense qu'on a arrêté ces deux personnes. Ils sont isolés. Et ils sont isolés parce qu'ils étaient signalés au niveau des points d'entrée. Donc, nous sommes en train de renforcer le système de surveillance au niveau des points d'entrée. Et peut-être la semaine prochaine, donc il y a des équipes qui vont descendre aux provinces concernées. On va amener les matériels, on va amener les thermoflashes, on va amener ce qu'on appelle les dispositifs pour renforcer à peu près 45 points d'entrée qui sont considérés comme prioritaires. Mais pour d'autres aspects techniques, je pense que le ministre de la Santé a proposé des solutions. Parce qu'on a commencé d'abord à réfléchir, est-ce qu'il faut réduire le nombre de vols et est-ce que il faut vraiment arriver à suspendre tous les vols. Mais ça ne rêve pas du ministre de la Santé, comme le professeur vient de dire. Ce sont ce que les gens ont proposé, ce qu'on appelle les propositions des comités techniques que le ministre va défendre au niveau du gouvernement. Et la dernière décision, c'est le gouvernement qui va prendre la décision s'il faut suspendre ou bien réduire le nombre. Mais déjà au niveau des comités nationaux de coordination, on a pris des résolutions, on a proposé des résolutions allant dans ce sens-là, soit stopper, soit réduire sensiblement le nombre de vols venant des pays les plus touchés.
Et qu'en est-il de la sensibilisation, docteur Aaron Haruna? Vous avez suivi maître Jean-Claude Katendi qui dit dans les écoles, aucun dispositif de lavage de mains, que ce soit dans les écoles ou les universités, dans les endroits publics, les marchés, rien de tout ça.
Mais je pense qu'il y a des situations que ça existe depuis des mois, des années. Nous savons qu'il y a des écoles qui sont construites, il n'y a pas d'eau. Nous savons qu'il y a des hôpitaux, nous avons des problèmes de l'eau. Ce n'est pas tout cela qu'il faut mettre à la charge aujourd'hui de l'équipe qui est en train de gérer le coronavirus. Il y a des causes qui sont lointaines, que ça relève de l'organisation du gouvernement d'une façon générale. Mais ici, ce que nous pouvons faire, ce sont des mesures de prévention qu'on doit renforcer. Là où il n'y a pas de l'eau, on peut mettre de l'eau. Là où il n'y a pas de point de lavage de mains, on peut mettre le lavage de mains. Donc, il faut faire la part des choses. Les mesures que nous pouvons mobiliser aujourd'hui pour prévenir la propagation et les mesures ou bien les actions qu'on devait faire pour le gouvernement, par exemple, pour améliorer le système de santé en République démocratique du Congo, c'est un processus. Pour améliorer la qualité de ce, c'est un processus. Et c'est dans ce sens-là que le président de la République est tenté de nous orienter vers la couverture santé universelle. Dans son programme de couverture santé universelle, ça tient compte de tous ces éléments-là. Et la vision des chefs de l'État, je pense, va contribuer à améliorer la qualité des soins et la qualité du système de santé en République démocratique du Congo.
Merci, docteur Aaron Haruna. Je rappelle que vous êtes directeur national de la Direction nationale de surveillance épidémiologique. Maître Jean-Claude Katende, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, dans le Kasaï central.
Jean-Claude Katende, au Kasaï central, à Kananga. Par rapport au sujet du jour, les mesures prises par le gouvernement sont bonnes, mais pas efficaces dans le sens que toutes nos frontières ne sont pas sécurisées. En plus, au lieu de multiplier les réunions stratégiques, que le gouvernement construise rapidement les centres d'isolement des malades et plus en charge, qu'il renforce les équipes de pro-santé à toutes leurs frontières respectives, qu'il organise la sensibilisation même dans nos coins reculés du pays. Nous ne sommes plus au moment où autant de réunions, mais plutôt les actes pour sauver notre population.
Alors, ce sont ces propositions pour renforcer déjà les mesures prises par le gouvernement, maître Jean-Claude Katende.
Oui, je suis tout à fait d'accord que les mesures prises par le gouvernement jusque-là paraissent être bonnes. Mais moi, je dirais tout simplement, comme je l'avais déjà souligné précédemment, que ce sont des mesures fantaisistes au vu de la situation et surtout de l'environnement en République démocratique du Congo. Il est important que les mesures plus fortes soient prises, qu'on ferme les écoles, qu'on ferme les églises, comme les autres pays l'ont fait. Les pays, d'ailleurs, qui ont des systèmes sanitaires efficaces ont pris ces mesures-là. Pourquoi pas la République démocratique du Congo?
Nous ne sommes qu'à 4 cas.
Aruna, docteur, vous soulignez le fait que il y a le programme de santé universelle, quelque chose dans ce genre-là dont il a parlé. Mais ici, nous sommes devant une situation concrète. Les Congolais ne vont pas attendre ces mesures qui sont politiques et pour lesquelles nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement a l'argent pour les mettre en place. Donc, nous sommes devant une situation concrète et on a besoin de voir le gouvernement prendre des mesures aussi concrètes. Et la proposition faite par l'auditeur, ça fait partie, en fait, de ce que nous, on a proposé. Mais je voudrais rappeler, comme vous l'avez aussi dit, que en termes de contamination, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai lu et j'ai suivi le docteur Muyembe dans son intervention, qui a démontré dans son intervention devant l'Assemblée nationale, qui a démontré que comparativement à Ebola, Covid-19 a une vitesse plus grande en termes de contamination. Si une personne atteinte d'Ebola peut contaminer une personne, mais celle qui est atteinte par le Covid-19 peut toucher 3 à 4 personnes. Donc, il y a déjà une différence. On peut se servir de l'exemple de l'expérience d'Ebola, mais je pense qu'il faut adapter toutes ces mesures par rapport au danger auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Les débats que nous avons doivent effectivement tenir compte du fait que le gouvernement s'est réuni aujourd'hui, mais nous discutons sur base des éléments que nous avons. À ce jour, en ce moment où nous discutons, les mesures sont celles que nous connaissons, nous ne savons pas le gouvernement va aller dans quelle direction. Et je pense aussi que nous devons tenir compte du fait que notre pays n'a pas d'argent pour faire face à cette situation, que la prévention, c'est la chose la plus importante et il faut qu'on sente que tout le monde est mobilisé pour sensibiliser les citoyens à prendre conscience que nous sommes devant une situation difficile et que chacun doit pouvoir se protéger. Je crois que c'est important.
Cette question concerne tout le monde. Comme vous venez de le dire, vous êtes président de l'Association africaine de défense aux droits de l'homme. C'est la société civile. Vous, en tant que société civile, quel est votre apport dans la sensibilisation ou pour aider le gouvernement à sensibiliser la population par rapport à cette pandémie?
Je pense qu'au niveau de la ZADO, nous avons une émission que nous organisons chaque vendredi. Et le vendredi passé, nous avons parlé du droit à la santé, dans lequel nous avons parlé des Covid-19 pour alerter notre peuple et lui donner des indications importantes en termes de comportement qu'il faut changer.
Merci.
Donc ça, c'est déjà notre contribution. Et nous utilisons aussi les médias sociaux régulièrement pour communiquer à notre population les gestes quotidiens qu'il doit pouvoir changer pour
Merci,
se protéger.
Merci, maître Jean-Claude Katende. Docteur Jean-Marie Kayem, on va prononcer pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Alpha Chimanga, des Zongo depuis Kinshasa. Ma préoccupation est que le gouvernement devrait déjà trouver la solution Tremeka qui a été déjà confirmée dans notre pays. Bien que rien n'est encore tard, mais il lui faut une solution plus rapide pour faire face à cette épidémie des gens présents à Kinshasa, tout en fermant momentanément les frontières et annuler de la même manière les vols en provenance de l'extérieur du pays. Au niveau de l'interne, monsieur le journaliste, pour réussir à cette épidémie des gens présents à Kinshasa, il faut que le gouvernement arrive à sensibiliser massivement les gens à travers les différents secteurs pour anéantir les rumeurs qui tournent tout autour de la non-existence de cette maladie.
Docteur Jean-Marie Kayembe.
Oui, je me réjouis vraiment de voir la réaction des uns et des autres. À Maître Katende, dont je ne voudrais pas disputer, mais disputer les compétences en termes de réflexion juridique, etc. La décision aujourd'hui, j'insiste sur la multisectorialité et l'implication de tous les acteurs de santé, les décideurs politiques, la balle ne devant pas être rejetée à l'un ou à l'autre. Mais apprenons des autres, apprenons des Chinois, apprenons des Français, apprenons des Italiens. Système sanitaire mieux organisé, mais rapidement, presque très rapidement débordé. Il y a deux choses. La décision que doivent prendre les politiques. On prend la décision aujourd'hui de fermer les marchés. Que fera le Congolais demain? Le chef de l'État est lui en permanence devant le gouvernement, je voulais dire, devant ce dilemme-là. Qui nécessite de répondre à protéger ma population, le protéger contre le virus qui se répand, je dois l'avouer, plus rapidement que celui, la transmission est plus rapide que celle d'Ebola, mais reconnaissons également qu'Ebola, la létalité est plus forte. Dans cette maladie, nous, experts scientifiques, savons que 10%, 10 à 15% ont la forme grave. Et en général, surtout parmi les gens les plus âgés.
Alors, docteur,
au-delà de ma soixantaine.
Docteur Jean-Marie Kayembe, quel message vous pouvez lancer à la population congolaise qui vous suit en ce moment par rapport à cette pandémie?
Oui, le message que je dois lancer est celui d'éviter la panique. Parce que dans la panique, on ne sait plus rien contrôler ni intérioriser. La population doit s'approprier le combat contre ce virus par le renforcement d'abord, madame, de l'hygiène individuelle. Quand on nous a dit le lavage de mains, je voudrais reprendre le professeur Muyembe qui m'a enseigné.
Il faut y aller rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, docteur Jean-Marie.
Oui, il nous a dit laver les mains. Il est sauvé de l'épidémie d'Ebola à Kikwit en 1995 parce qu'uniquement on n'avait pas de vaccin, rien, on lavait les mains. Donc, madame, les mesures d'hygiène personnelle, laver les mains, éviter les grandes promiscuités, les salutations très rapprochées. Ce virus est très grand, résiste peu à la chaleur et il faut éviter les embrassades, etc.
Merci.
Éviter les poignées de main, laver les mains.
Merci, docteur Jean-Marie Kayembe. Docteur Haruna, votre conclusion en 30 secondes.
Ma conclusion, c'est d'abord on doit éviter à politiser la riposte contre la pandémie à coronavirus parce que ce n'est pas le problème seulement de la République démocratique du Congo, c'est un problème qui touche plus de 120 pays. Donc nous devons nous unir pour combattre l'ennemi commun qui est le virus aujourd'hui de coronavirus. Nous devons collaborer, nous devons faire un effort pour transmettre les messages vrais qui nous permettent de réduire les risques de contamination.
Merci. Jean-Claude Katende, votre conclusion, 10 secondes.
Oui, ma conclusion est toute simple, c'est de demander à chaque Congolais de s'intéresser à la question et de suivre les conseils qui sont donnés pour se protéger contre ces virus.
Merci Jean-Claude Katede, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.